satire, entertainment, information, commentary, and services. Real services.
L'apéro phonique.
Yes, music just to please our audience.
L'apéro phonique. Apéro phonique. Apéro phonique.
L'apéro phonique.
This radio station has been constructed.
Apéro phonique.
Apéro phonique. Le cocktail musical et culturel du 90.
Freedom of speech.
Radio.
Communication.
Grenoble 90.
L'apéro phonique.
Apéro phonique.
Le bouncer musical et culturel de ta radio.
Bonjour à toutes, bonjour à tous ou bonsoir. Vous êtes sur Campus Grenoble 90.8. Vous écoutez l'apérophonie en direct en RTN sur donc la FM. Ou alors vous nous écoutez et réécoutez via le site de la radio www.campusgrenoble.org. Le site qui vous permet donc une écoute en direct sur votre tablette, smartphone, ordinateur, que sais-je encore. Et qui vous permet aussi de réécouter vos émissions préférées grâce à la fonction podcast. Et évidemment, tout ceci est gratuit, bien entendu. Alors, ce soir, j'ai une invitée qui est avec moi, qui est arrivée sur son beau vélo. Profitez de ces merveilleux rayons de soleil pour venir jusqu'à nous, nous présenter eh bien, la saison des musiciens du Louvre Grenoble. Bonjour.
Bonsoir.
Comment vas-tu?
Bien, bien.
Je te laisse te présenter.
Oui, alors je suis Stéphane Jourdain, secrétaire générale des musiciens du Louvre.
Et donc, comme on le disait au moment où tu as atterri dans nos studios, la saison des musiciens du Louvre a démarré sur les chapeaux de roue, puisque vous avez déjà fait beaucoup de choses.
Oui, tout à fait. On a commencé la saison très tôt, puisqu'on était dès le 13 septembre au musée de l'Ancien Évêché, puisque le musée fêtait ses 20 ans.
Et
on
oui.
a fait un concert solo de suite, violoncelle, de suite de bac pour violoncelle. Pardon. Et la semaine d'après, on était à la librairie Artaud, puisque c'est des choses qu'on fait, des concerts en petit format dans la librairie Artaud, pour essayer de donner une autre vision de la musique.
Voilà, bien. Et puis pour permettre à des gens qui sont peut-être un peu impressionnés par l'étiquette concert de musique classique qui peut faire très sérieux, de ne pas avoir à passer le pas et d'aller dans un endroit dans lequel ils ont plus d'habitude peut-être.
Tout à fait, puis du coup à la fois ceux qui connaissent Artaud connaissent peut-être cette petite salle en haut.
Où se font les rencontres avec les écrivains.
Exactement,
notamment.
Où se font les rencontres, où il y a des expositions. Exactement. Et du coup c'est un format très intime parce qu'on dispose toutes les chaises autour des musiciens. Et en plus, les musiciens présentent chaque morceau, racontent des anecdotes. Donc, c'est à la fois très vivant, très commenté, très participatif.
Une certaine et façon. Un peu moins formel qu'un concert traditionnel. Donc, c'est aussi l'occasion d'aller écouter de la musique classique dans un autre cadre. Et c'est parfait. Et puis là, vous revenez de Bordeaux?
Alors, on a fait la péricole à Bordeaux, puisque cette année, on fête le 200e anniversaire de la naissance d'Offenbach.
Yes.
Et donc, pour fêter ça, il y a pas mal de manifestations, pas mal de concerts Offenbach dans notre programmation, et notamment la péricole, qui est un opéra donc, d'Offenbach. Et c'est la première fois, d'ailleurs, que Marc Mikowski et les musiciens du Louvre mettaient en scène et en musique cet opéra. C'était une grande première pour nous. Et on l'a terminé mardi dernier. Et mercredi, on était à la MC de Grenoble pour un gala Offenbach.
Ça détèle pas.
Ouais, exactement.
Une partie de l'orchestre est partie au Mexique.
Oui, alors là, c'est la première fois qu'on va au Mexique. On est très content de se développer dans de nouveaux réseaux, de nouveaux pays. Et là, on est parti avec un programme en plus petit effectif autour de Francesco Corti, qui est notre clavecin. Un programme qui s'appelle « Crudel Tirano Amor », les amours tyranniques.
Ouh là là, beau sujet.
Voilà.
Beau sujet. Et puis, ben, nous, on est ensemble pour parler des concerts qu'on va avoir l'opportunité de voir sur Grenoble et sur le département, et même un peu plus large, puisque les musiciens du Louvre Grenoble vont intervenir beaucoup, beaucoup sur les prochaines semaines et mois. Puisque dans la saison, il y a beaucoup de passages par ici.
Oui, en effet, traditionnellement, les musiciens du Louvre, étant en résidence en Isère, la moitié de leurs concerts se passe en Isère. Alors, donc, en gros, on fait une grosse centaine de concerts par an, ce qui est beaucoup, hein, et une bonne cinquantaine se passe dans le département. qui sont soit des concerts en grand effectif, alors là c'est plutôt dans des salles comme la MC2 ou comme l'église Saint-Jean, on le verra,
oui.
Soit des concerts en plus petit effectif, comme ceux dont on parlait à la librairie Artaud, mais aussi au couvent Sainte-Cécile ou des choses comme ça.
En plus, voilà, vous choisissez souvent des lieux qui restent un peu atypiques, mais bien adaptés à la musique pour des conditions d'acoustique aussi.
Oui, bien sûr, il y a les conditions d'acoustique qui rentrent en compte, il y a le plaisir quand même des spectateurs à être là, il faut qu'il y ait une ambiance, on essaye, même si on n'hésite pas à aller dans des lieux qui ne sont pas faits du tout pour la musique. Je repense par exemple au printemps, enfin en juin, on était invités et on a été très contents à la fête de quartier d'Abbaye Jouhaud, et on a joué au parc Émile Romanet. Vraiment au milieu de, enfin, sous la canicule et à côté du stand à frites, quoi.
Oui, mais moi j'aime bien les concerts de musique classique dans les parcs. C'est une habitude que j'ai pris pendant mes nombreux voyages à Londres à une époque de ma vie. Et c'est vrai qu'on voit, bon, alors il y a souvent des kiosques à musique, mais pas toujours. Ça dépend des parcs et ça dépend des villes. Et souvent il y a des orchestres de 20-25 musiciens qui jouent. Pour un public qui est là et qui est un public familial qui vient pique-niquer, qui vient se détendre et qui a ainsi accès à la musique classique dans un cadre non formel. Et je trouve que c'est vraiment très, très agréable.
C'est très agréable avec le souci d'être entendu, puisque nous, on fait de la musique non amplifiée, c'est le principe.
Fait, Donc évidemment, on crée un petit cercle autour et puis les gens viennent s'agglomérer pour écouter. Et je pense que notamment pour l'accès des petits, ça peut être une première expérience qui évite d'avoir une petite réserve pour les concerts de musique classique. Moi je suis pas du tout issu de cette culture musicale là. Dans les années 70, quand j'ai grandi en Haute-Savoie, l'accès à la musique classique, ça paraissait totalement pour d'autres gens que nous. Moi j'écoute du rock énormément, et en fait c'est en arrivant sur le campus avec les concerts qui étaient organisés par le tramway de mes cultures que je suis allé voir mes premiers concerts de musique classique, parce que j'avais envie de, enfin, par curiosité, et puis aussi parce que les concerts étaient gratuits et c'est ensuite que ça m'a filé le virus et que je vais régulièrement en voir. Mais c'est vrai que sans ça, peut-être j'aurais jamais passé le pas, parce que c'est pas quelque chose qui est naturel et qui fait partie de ma culture de base, quoi. Donc je trouve que si on peut développer un peu l'accès pour des gens un peu hors du circuit, c'est bien, quoi.
Bien sûr, c'est le sens de tous nos efforts. Pour les petits, nous, on a mis en place des concerts qui ne sont pas vraiment des concerts, ce qu'on appelle les baby allegro, et qui s'adressent aux 0-3 ans. Et l'idée, c'est de leur faire toucher l'instrument. Donc, on joue des comptines. Il faut savoir que pas mal de comptines, je pense à J'ai du bon tabac ou des choses comme ça, sont issues du répertoire baroque, en fait. On ne sait pas. Et du coup, c'est toujours un plaisir de voir les enfants s'animer, frapper des mains, taper des pieds, danser même sur ces comptines, et ensuite venir toucher l'instrument. Enfin, on voit bien le succès de ces séances, puisque on est parti au départ, on faisait 20 personnes, maintenant on en a 50, on doit doubler les séances, etc.
Donc voilà, on parle souvent de démocratisation de la culture et de faire venir de nouvelles générations et de nouveaux spectateurs à la musique classique, mais ça passe aussi par tout un tas d'initiatives qui sortent de l'ordinaire et qui sont
bien
comme
sûr
celles que vous proposez. Le prochain, j'allais dire gros morceau,
c'est peut-être pas
très élégant, mais c'est
pas en parlant d'Anne-Sophie Von Hutter, mais en parlant de notre concert.
C'est ça. Le prochain gros événement que vous proposez sera le 4 novembre.
Tout à fait, le dimanche 4 novembre, donc qui est le dernier dimanche des vacances, un concert qui aura lieu à l'église Saint-Jean à 17h. Ce concert qui s'appelle Bach Handel est un concert événement à plus d'un titre. D'abord parce que c'est le grand retour de cette mezzo qui est une star, Anne-Sophie Von Hutter, son grand retour à Grenoble. Elle n'y est pas venue jouer depuis 10 ans. Et il y a 10 ans, elle était venue avec les musiciens du Louvre. C'est une star qui est très demandée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas eu le choix de la date. On est très heureux de pouvoir la faire découvrir au public grenoblois. Et c'est pour la faire redécouvrir au public grenoblois qu'on a pris le risque de ce concert. C'est-à-dire que c'est l'orchestre qui a décidé de se programmer d'une certaine façon. C'est aussi le grand retour des musiciens du Louvre à l'église Saint-Jean, puisqu'ils n'y sont pas allés depuis 16 ans.
Donc il y a 16 ans. Où elle se trouve, l'église Saint-Jean ?
Alors, l'église Saint-Jean, elle est sur les grands boulevards, près de la clinique mutualiste, si on peut dire, le Monoprix, le quartier de l'Aigle, etc.
Voilà.
Et donc, l'église Saint-Jean, on y allait à l'époque où le cargo était fermé pour travaux. Et on y avait joué, justement, avec Anne-Sophie Von Hutter, un récital Bach, d'une part, et Ariodante, d'autre part. Donc ça, c'est aussi un événement, parce que l'église Saint-Jean a cet avantage, outre le fait qu'elle est très accessible en tram, et donc ça, c'est assez simple, c'est qu'elle permet une très bonne écoute à tout le monde, elle permet une très bonne visibilité, et une certaine intimité avec les musiciens, puisque les chaises sont tout autour de la scène, enfin de la scène du chœur. Donc ça, c'est vraiment aussi un avantage. Et un autre argument pour ce concert, c'est que c'est un concert inédit et unique. Inédit parce qu'on n'a jamais donné ce programme. C'est un programme qu'on crée spécifiquement et un programme plutôt ambitieux parce que c'est à la fois un florilège des plus beaux airs d'opéra de Handel et à la fois une des plus grandes cantates sacrées de Bach. Donc il y a vraiment un choix là qui est très fort. Et d'autre part, c'est un concert unique parce qu'il ne fera pas l'objet d'une tournée et c'est un concert vraiment qu'on offre aux Grenoblois. Donc, il ne faut pas le louper.
Oui, voilà. Donc, dimanche 4 novembre à 17h, c'est à l'église Saint-Jean à Grenoble. Vous pouvez réserver vos places et on vous recommande de le faire.
Oui, alors surtout n'attendez pas le dernier moment parce que le jour même, il y aura probablement une billetterie, mais il y aura surtout la queue. Donc, voilà. Il vaut bien mieux, si vous êtes adepte de la réservation Internet, vous allez sur le site des musiciens du Louvre, mdlg.net. Il y a un onglet billetterie et là, vous pouvez réserver directement. Il y a des tarifs étudiants notamment. Si vous êtes adepte plutôt du contact et de la vente physique, dans ce cas-là, vous venez au bureau des musiciens du Louvre qui sont à la salle Olivier Messiaen, les jours ouvrables entre 9h et 17h. Et là, on vous vendra et imprimera votre billet. Dernière possibilité, vous pouvez aussi aller à la FNAC. Dans ce cas-là,
c'est une billetterie normale. Classique. Mm. La salle Olivier Messiaen, pour ceux qui ne savent pas où elle se trouve vers le musée de Grenoble.
Voilà, 1 rue du Vieux Temple. Donc, c'est en face du musée de l'Ancien Évêché, tout près de la place Notre-Dame. Vous pouvez y aller en tram également.
Et à côté du musée de Grenoble. Donc, voilà. Tout est regroupé au même endroit. Donc, ça, ce sera le programme du dimanche 4 novembre à 17h à l'église Saint-Jean. On va peut-être écouter un extrait justement du Bach. Mm. Ça te dit? Un petit Bach.
Très bien.
Ouais. En plus, je pense que c'est l'écran idéal pour l'église Saint-Jean.
Oui,
c'est,
oui, tout à fait. Cantate sacrée, église
Saint-Jean.
Ouais.
Ouais, voilà.
La voix d'Anne-Sophie s'y prête particulièrement.
Ça devrait être le bon écrin pour le bon
ça
spectacle.
Ça va être un très bon moment.
Un petit moment de Bach dans l'apérophonie sur Campus Grenoble 90.8.
Thank you. Oh.
Et voilà, un pur moment de beauté du Handel sur Campus Grenoble 90.8.
Du bac.
C'est bac ça ?
Avant, c'était pas du bac, t'avais mis ?
Ben, il me semble bien que c'était Handel, moi.
Je suis perdu.
J'aurais dit Handel, ouais. Non ?
Là, c'était Handel, et avant, t'avais annoncé du bac.
Eh oui, ben, c'est parce que je me suis trompé, parce que je sais pas lire.
Okay.
Je sais pas lire. Et donc, ça fait partie du programme qui, ça, on en est sûr, puisqu'il y aura à la fois du bac et du Handel, qui sera joué le dimanche 4 novembre à l'église Saint-Jean à Grenoble à 17h.
C'est ça.
Et donc, ce sera le grand retour de la cantate...
Anne-Sophie Von Hutter,
bah, tu le dis
à Grenoble, et des musiciens du Louvre à Saint-Jean.
Voilà. C'est vrai que vous avez essayé plein d'églises finalement l'année dernière, vous en avez fait plusieurs.
On fait le tour des églises. D'ailleurs, on s'était demandé si on ferait pas ça avec à l'occasion des fêtes du patrimoine, tour des églises comme ça. Mais en fait, on a essayé l'an dernier la cathédrale Notre-Dame, qui sonnait pas mal, et la collégiale Saint-André, où c'était moins évident peut-être quand même. On avait essayé le Sacré-Cœur, où là, c'était pas du tout évident, même si l'église est très belle, puis il faisait très froid.
Voilà, c'est ça. Je me souviens, tout le monde m'a dit que c'était formidable, mais il faisait froid.
Il faisait 16 degrés, donc voilà. Même les instruments demandaient grâce. Et on va souvent aussi au couvent Sainte-Cécile, où on sera justement le 19 novembre, avec Glénat. Donc là où on présentera un programme inédit, récréation musicale, un duo avec la flûtiste Annie Laflamme.
Ah, oui.
Et ce sera le 19 novembre parce qu'en fait, le 22 novembre, c'est la Sainte-Cécile.
Ah,
et
bah
là,
oui.
C'est la patronne des musiciens.
Oui, oui.
Donc le couvent Sainte-Cécile aime célébrer la patronne des musiciens avec les musiciens du Louvre.
Voilà. Oui, ça paraît cohérent comme idée.
Ça paraît cohérent. Donc ça fait 3-4 ans maintenant qu'on y va régulièrement. Donc, récréation musicale, on regarde en même temps sur le site des musiciens du Louvre. Voilà, c'est un duo.
Yep. Et ce sera...
Flûte, et c'est Bertrand qui va me dire...
Hop là.
Flûte.
Jacques-Martin Hotteterre, ça c'est le programme, Bach, Jean-Marie Laclaire et...
Ça, c'est des œuvres de compositeurs français, donc...
Couperin, Téléman.
Couperin.
Yep.
Du Téléman, en effet, et sur les instruments présents sur scène, distribution plus bas.
Ah, pardon.
Ce sera donc Annie Laflamme, la flûtiste, puisque c'est elle qui a lancé l'idée de ce programme.
Et Olivier Fortin au clavecin.
Voilà, et c'est un clavecin, je voulais en être sûre. Donc un programme clavecin-flûte qui risque d'être superbe dans cet écrin qu'est la chapelle du couvent Sainte-Cécile. Donc, au niveau des bureaux de Glénat.
Voilà, puis moi, j'adore le clavecin, donc ça tombe parfaitement bien.
Le 19 novembre.
À 19h30.
Voilà.
Je crois qu'on vous a tout dit. Évidemment, si vous voulez retrouver l'intégralité du programme, vous allez sur le site des musiciens du Louvre, c'est www.mdlg.net.
Exactement.
Et après, ben, vous avez la partie où vous pouvez réserver vos billets, mais vous avez aussi la partie qui vous donne tout le programme, les lieux, les horaires. Voilà.
Et vous avez également une partie qui est autour de la saison, où là, vous avez toutes nos actions, que ce soit dans les quartiers, dans les villages, avec les étudiants, avec les enfants, à l'hôpital, etc.
Oui, parce qu'on n'aura pas le temps de tout aborder, parce que ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. Mais le programme est vaste, comme tu disais, il y a une centaine de concerts sur toute la saison. Et dont une cinquantaine autour d'ici.
Voilà, tout à fait.
Donc évidemment...
On mettra l'accent sur quelques-uns.
Oui, il faut faire des focus, 50, c'est un peu long à aborder.
Tout à fait.
Qu'est-ce que tu nous as amené d'autre ?
Alors du coup, une fois qu'on aura fêté la patronne des musiciens, Sainte-Cécile, deux grands rendez-vous en décembre, on va dire, on va sauter directement à décembre, le concert de Noël qui aura lieu le 14 décembre. Le vendredi 14 décembre à l'église de Tesse. Et là, je vous invite tous ceux qui peuvent faire le voyage parce que ce sera un vrai voyage musical puisque c'est Annie Laflamme, toujours elle, la flûtiste qui a imaginé ce programme et elle l'a imaginé comme un voyage dans les salons de la Vienne classique.
Mmh.
Donc on aura du Mozart avec des airs de la flûte enchantée. Et comme elle l'explique très bien sur une vidéo que vous découvrirez dans quelques temps sur notre site, ce qu'elle a voulu faire, c'est montrer la flûte enchantée en trio. Et elle, à la flûte, elle est un peu comme la chanteuse
qui
chanterait les airs. Voilà, elle fait les airs de l'opéra et c'est vraiment un très beau moment. Donc ça sera pour le programme de Mozart. Et il y aura également des divertimento et des symphonies de Haydn, qui était à la fois un maître et un ami de Mozart. Hein. Donc l'idée, c'est de montrer ces deux compositeurs dans une musique légère, agréable. C'est une soirée qui s'annonce avant tout divertissante. Et c'est un très beau concert de Noël, donc le 14 décembre à 20h à l'église de Tesse. Les billets, pareil, sont en vente sur le site mdlg.net, la rubrique billetterie.
Voilà. Et puis alors, par contre, il faut se méfier parce que l'église de Tesse, c'est plus petit qu'à Grenoble, donc il faudra prendre ses billets assez tôt.
Exactement. Il vaut mieux prendre ses billets assez tôt puisqu'il n'y a qu'une... il y a 200 places maximum. Hein. Et l'autre rendez-vous de décembre, mais c'est un peu un rendez-vous fictif pour ceux qui n'ont pas déjà leur billet, puisque c'est la messe en ut de Mozart que Marc Mikowski dirige le 18 décembre à la MC2. Mais là, pour le coup, c'est plein et archi plein.
Fallait donc, acheter ça le jour de la mise en vente.
Voilà, pratiquement, donc en juin dernier. Donc, finalement, le rendez-vous de décembre, c'est celui de l'église de Tesse le vendredi 14 décembre.
Justement, concernant les concerts de Noël, j'avais une question sur comment vous choisissez les œuvres. Parce que de temps en temps, il m'arrive d'écouter d'autres radios que Radio Campus. Eh oui. Et l'autre jour, j'étais dans ma voiture coincée dans les bouchons. J'étais sur Radio Classique pour écouter Stéphane Ferrand. Parce que ça, c'est l'étudiant d'histoire qui sommeille en moi qui est ressorti. Et il y avait de la publicité de Radio Classique pour le concert de Noël qu'ils organisaient. Et c'était un peu les tubes du classique pour Noël. Oui. Et je me suis dit, bon, c'est... Évidemment, c'est bien parce que si on emmène les enfants, que voilà, il y a un côté joyeux, il y a un côté très cérémoniel et un côté évidemment les airs qu'on a l'habitude d'entendre à Noël, mais ça faisait quand même un tout petit peu prévisible.
Ouais, un peu trop vu. Ouais. En fait, c'est sûr que quand on regarde les programmes des salles, elles essayent comme ça. Il y a justement les Offenbach, etc., les trucs
tubes
un peu pétillants, les voilà Strauss, machin, au Nouvel An, et puis on va dire à Pâques les messes pascales. Mmh. Et c'est vrai que du coup, comme pour les grandes salles, on n'échappe pas un peu à cette demande. Nous, on essaye de proposer toujours des choses nouvelles, mais on rentre quand même dans ces saisonnalités. La messe en ut qu'on propose à la MC2 et qui part en tournée en Europe, hein, qui passe à la Philharmonie, à Genève et en Espagne, etc. C'est, d'ailleurs, je dis des bêtises, elle ne va pas en Espagne, celle-ci. C'est la grande messe de Noël de Mozart. Souvent, à Pâques, on fait la Passion. Les Grenoblois ont pu entendre la Passion selon Saint Jean, la Passion selon Saint Matthieu, qui sont des grands moments du répertoire musical. Après, pour le concert de Noël de Tesse, c'est carrément une autre démarche. Mmh. Parce qu'en fait, là, l'idée, c'est l'artiste qui a envie. Il y a toujours cette attention artistique, hein, par exemple, parce que les salles, on leur demande, mais c'est quand même Marc Mikowski qui va proposer tel ou tel programme, telle ou telle passion, etc. Mais là, typiquement pour le concert de Tesse, en musique de chambre, c'est parce que Annie, qui a imaginé ce programme, aime beaucoup le répertoire classique, mmh. Elle avait envie de le partager et elle avait envie de trouver quelque chose qui, avec son instrument, la flûte, puisse être dans ce répertoire. C'est elle qui allait chercher les partitions en réduction, etc. C'est vraiment une intention de départ avec une ambiance, quoi.
C'est ça, c'est un vrai désir artistique alors.
Voilà.
Bien, très bien. Parfait. Et on a un petit peu de musique pour le concert de Noël à écouter.
Ouais, très bien. Alors, quel est le...
Le trio Haydn. Tombe bien.
Tout à fait.
Ce sera donné donc dans le cadre du concert de Noël. Ce sera le 14 décembre. Ce sera à l'église de Tesse. Un peu de Haydn dans l'apérophonie sur Campus Grenoble 90.8. De Haydn, très guilleré, qui devrait mettre tout le monde dans des bonnes dispositions pour le concert de Noël, qui se passera donc à l'église de Tess en Isère, et ce sera le 14 décembre, et ce sera à 20h30. Un vrai concert de Noël, quoi.
Exactement.
Pensez à prendre vos places en avance, puisque là, l'église de Tess, c'est pas très grand. Moi, j'y suis déjà allé voir de la musique classique il y a très très longtemps. C'était pas les musiciens du Louvre, mais c'était bien quand même. Et le lieu est très joli. Mais par contre, c'est pas grand. Donc, pour la billetterie, on le rappelle, et pour tout le programme, puisqu'on va pas avoir le temps de tout détailler, vous allez sur le site des musiciens du Louvre, c'est www.mdlg.net. Là, vous avez à la fois la billetterie et l'intégralité des concerts proposés ici ou très loin, si vous avez envie de voyager, d'aller... écoutez les musiciens du Louvre hein, au Mexique.
Voilà, au Mexique.
Il faut se dépêcher parce qu'ils y sont maintenant.
Oui.
Qu'est-ce qu'on va présenter d'autre comme
concert ?
On peut
peut-être évoquer en janvier un concert un peu particulier. Ce sera le 16 janvier à la MC2. C'est un quiz interactif. Donc l'idée, c'est un peu question pour un champion, mais dans la musique. Donc l'idée, c'est là encore de révolutionner un peu l'approche de la musique classique, présenter un type de concert différent. Donc vous aurez sur scène à la fois l'orchestre dirigé par David Glidden, qui est notre timbalier, et qui est aussi chef d'orchestre, et puis un maître de cérémonie, Antoine Pecker, qui est aussi conseiller musical à la MC2. Et l'idée, c'est de poser des questions à la salle avec des réponses à choix multiples, hein, des possibilités de réponses qui sont présentées. Le public propose sa réponse au moyen de panneaux qu'il lève. Et ensuite, la réponse est la bonne réponse est donnée par le maître de cérémonie et jouée sur scène. Donc, c'est un côté très, très ludique. Voilà. Donc, un QCM géant, si vous voulez, le 16 janvier prochain à la MC2. Donc, ça, c'est un des rendez-vous
importants. Et il y a deux séances.
Et il y aura deux séances, une séance l'après-midi pour les enfants, probablement.
15h30.
Et une séance tout public.
À 19h30.
À la MC2.
Ah, j'adore cette idée. Ah, c'est super bien.
Voilà. Après, le grand rendez-vous à nouveau, il est à Saint-Jean. Puisque là, c'est un peu les deux concerts importants pour nous cette saison, où l'idée était de mettre en valeur les cantates de Bach. On les aura un peu abordées avec Anne-Sophie Venoteur, mais là, c'est tout un florilège de cantates de Bach qu'on va vous proposer le 21 mars à l'église Saint-Jean. Le concert sera dirigé par Thibaut Noali, qui est notre premier violon et qui est un féru des cantates de Bach. C'est lui aussi qui dirige le concert du 4 novembre. Et ce sera l'occasion de découvrir pour les Grenoblois la jeune contralto Antea Pichanik, qui a une voix de velours, comme dit Marc Mikowski, et qui se prête particulièrement à l'ambiance de ces cantates, l'ambiance recueillie, l'ambiance tout à fait émouvante. Il y a un côté très... très intime et très dense. Ça va être un très beau moment. On peut écouter un extrait d'ailleurs, je crois que tu en as.
Et puis là, de nouveau, ce sera parfait puisque ce sera dans l'église Saint-Jean.
Oui, dans l'église Saint-Jean, qui se prête vraiment particulièrement à ce répertoire et qui a un répertoire que Bach a beaucoup travaillé, hein, puisque il était cantor d'église, c'est-à-dire qu'il était censé faire écrire les partitions, etc.,
répéter,
pour la messe de tous les dimanches. Hein, donc on a voilà.
C'est pour ça qu'il en a écrit beaucoup.
Cantates, ouais.
Voilà, parce que c'était son travail à plein temps. Il
Exactement.
Faisait chanter tout le chœur des jeunes garçons qui chantaient dans l'église. Bah justement, on va s'écouter une cantate de Bach. Je la dirai pas en allemand.
Non, non plus.
Hein.
Vous comprenez pourquoi ce genre de cantates, on les fait interpréter dans des églises, parce qu'il faut quand même un écrin pour ce genre de musique. Et donc ça, ça se passera à l'église Saint-Jean de Grenoble, ce sera le...
21 mars.
Le 21 mars. Oui, alors ça paraît loin comme ça, mais oui, il est toujours important de penser à, se, à réserver... ces places parce que oui, ça vient vite. Et puis c'est assez... enfin je suis jamais rentré dans l'église Saint-Jean mais c'est assez ça a l'air grand d'extérieur
c'est grand,
mais
c'est grand. Ce qui est intéressant c'est que c'est grand mais que chaque place est très agréable quoi.
Et très proche du groupe.
Enfin très très bien en termes d'audition et de visibilité. Les bancs sont un peu durs mais il faut amener un coussin.
Mais oui, mais c'est ça on est habitué pour les concerts en église, on amène son coussin.
Voilà.
Ensuite, sur quoi on met l'accent?
Peut-être sur la collaboration avec l'Orchestre des Campus de Grenoble.
Ah bah
puisque,
oui.
Comme tous les deux ans, on va proposer un programme à la MC2 où à la fois les musiciens amateurs de l'Orchestre des Campus et les musiciens professionnels des musiciens du Louvre partageront la scène. Donc, à l'occasion d'une soirée, ce sera le 9 mai pardon, à la MC2 à 19h30. Et là, l'idée, c'était... c'est leur quatrième collaboration hein, et donc cette année on voulait faire une soirée un peu comme ça pas rétrospective mais disons un voyage un peu historique d'Offenbach à Forêt avec des œuvres tant d'Offenbach pour le 200e anniversaire que de Debussy.
J'allais dire de la musique française parce, mais Offenbach n'est pas vraiment n'est pas français mais il a passé tellement de temps en France que c'est quand même un peu
puis Debussy
infuse,
et Forêt donc, en effet. Et ce concert sera dirigé par Pierre Dumousseau et surtout on aura la chance d'avoir le violoncelliste solo Bruno Philippe donc à découvrir le 9 mai. Voilà. Il y aura bien sûr des tarifs étudiants, comme toujours à nos concerts. Hein. Et on essaye, mais ce n'est pas encore calé, d'ouvrir la répétition spécialement pour les étudiants de l'université grenobloise.
Ah oui, de pouvoir venir,
venir assister à la répétition qui aura lieu à Olivier Messiaen.
D'accord. Ah ouais.
Voilà.
Ouais, ça doit être pas mal, ça.
On vous tiendra au courant.
Ouais. Ben, dès qu'on aura l'information, on vous la relayera, parce qu'effectivement, c'est quand même être la petite souris qui rentre et qui vient voir la partie où tout le monde travaille. C'est quand même...
Et puis, ce sera l'occasion d'un échange aussi pour interroger tant les musiciens de l'Orchestre des Campus que les musiciens du Louvre sur qu'est-ce que ça apporte, la collaboration entre amateurs et professionnels, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce qu'il faut beaucoup plus travailler avant. Enfin, voilà, un peu comment ça se passe. Et puis, c'est l'occasion aussi de voir les métiers de la scène autrement, quoi. Puisque qu'est-ce que c'est qu'être un musicien professionnel à part prendre beaucoup l'avion et travailler beaucoup chez soi.
C'est ça. Et en fait, voilà. Il faut être capable de répéter avec, avec des gens nouveaux souvent.
Exactement. S'adapter, ça demande beaucoup d'adaptabilité.
Exact. Alors donc ça, ce sera
le 9 mai. Donc ça, c'est l'avant-dernier concert à la MC2. Et le concert de clôture de la saison, lui, aura lieu le 4 juin sous la direction de Marc Mikowski. Ce sera aussi le concert de clôture de la MC2. Et en l'occurrence, ce sera un programme Haydn Mendelssohn, donc symphonique. Et un programme très joyeux, puisqu'il y aura notamment la symphonie La Surprise, avec une bonne part de surprise à l'intérieur. Mais là, on ne va pas tout vous raconter,
sinon
on se déflore le sujet. Ça ne sera pas très intéressant. Mais le programme est très, on va dire, gai, ludique et très inattendu, d'une certaine façon.
Ah, puis moi, j'aime beaucoup Mendelssohn, donc ça tombe bien. C'est vrai que c'est un compositeur dont on connaît toujours un peu la marche nuptiale. Ça aussi, ça fait partie des classiques et des clichés. Mais, mais Mendelssohn, il a fait d'autres choses dans sa vie, et ça, c'est bien. Donc,
beaucoup
ça sera une occasion.
Ça fait plusieurs saisons que les musiciens du Louvre jouent des symphonies différentes de Mendelssohn.
Ouais.
On voudrait faire un cycle complet.
Ah, ce serait bien, ça.
Et l'enregistrer.
Ben oui. Parce que ça n'a pas été fait depuis vachement longtemps, toutes les symphonies de Mendelssohn.
Non.
Ouais. Super.
À suivre.
Eh oui. Justement, à propos des enregistrements, vous gérez ça comment par rapport au programme de votre année? Parce qu'il est déjà bien chargé, le programme.
Alors,
comment vous arrivez à tout?
On va enregistrer la messe en ut en décembre à la MC2, parce que la MC2 est un écran.
Ouais.
Hein, il faut bien
ça,
le dire.
L'auditorium, c'est le rêve. Hein.
Que beaucoup de villes nous envient.
Ouais.
Mais on a suivi surtout les déboires de nos éditeurs, hein, puisque nous, on était avec Naïve qui a fait faillite, donc il a fallu qu'on récupère notre CD. Donc en fait, il faut à la fois plusieurs saisons pour travailler un programme, puis l'enregistrer, mais il y a des conditions de après des conditions financières, de publication, etc. Bref, c'est toujours très compliqué. Il y a peu de gens qui rêvent d'éditer de la musique classique aujourd'hui.
Moins. Ouais. Moins qu'à une époque, oui. Ouais. Surtout sur les créations, évidemment, tout le monde est prêt à ressortir, rééditer des choses qui ont
les
déjà
bestes,
été faites.
Mais sans risque.
C'est ça.
Quand on est sûr
payer l'enregistrement, c'est plus compliqué, oui. D'accord. Donc en fait, vous arrivez à caser ça, mais c'est.
On va faire la messe en ut, mais par exemple, les symphonies de Mendelssohn, c'est pas encore calé. C'est des
oui, surtout
du travail
sur, un cycle.
Sur plusieurs années.
Ouais,
vraiment.
Voilà, ouais, j'imagine
bien, le projet artistique est vraiment important.
Et qu'est-ce qui nous reste à évoquer ?
Ce sera la fin de saison. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que pour les gens qui ont envie de voir l'orchestre sous une autre facette. Il est toujours possible de se porter bénévole, hein, pour être. Alors bénévole, ça consiste en quoi ? Bah, ça dépend un peu du degré d'engagement que vous avez envie de donner. Mais l'idée, c'est vous pouvez soit tracter à l'occasion d'autres concerts classiques, soit diffuser sur les réseaux numériques l'information, soit venir nous aider à accueillir le public aux deux concerts à l'église Saint-Jean, justement. Et c'est l'occasion à la fois d'assister ensuite au concert gratuitement, mais aussi de voir comment on travaille, de voir le rapport entre les musiciens, le rapport au public. Et puis ensuite, pourquoi pas, d'échanger avec les musiciens autour d'un pot, puisqu'on essaie toujours d'avoir un temps convivial, autant avec les artistes qu'avec les bénévoles. Donc ça, c'est tout à fait possible. Vous verrez sur notre site, il y a des appels à bénévoles. On en a fait, par exemple, à la licence de musicologie aussi. Il y a différentes choses en cours où... Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de voir autrement la musique, c'est une bonne expérience.
Eh oui, c'est toujours sympa d'être bénévole, ça permet de rencontrer plein de gens avec qui on partage la même passion.
Vous pouvez le faire une fois, deux fois, trois fois, c'est vraiment à la carte. Et même ne rien connaître à la musique, l'idée c'est de découvrir.
Oui, c'est l'occasion. Il va être l'heure de conclure, on écoute quoi enfin ?
Est-ce qu'on a quelque chose pour le programme La Surprise
Ah oui.
Haydn Mendelssohn peut-être.
Ou comme tu veux.
Mendelssohn ou
Haydn.
Haydn Mendelssohn, quelle est la sélection que tu as faite, Céline?
La symphonie 94.
Essayons.
Ah oui.
Essayons.
Parfait. Merci beaucoup.
Merci.
On rappelle que pour la billetterie et l'intégralité du programme des musiciens du Louvre sur l'Isère, vous allez sur www.mdlg.net.
C'est ça.
Merci beaucoup et puis on se voit le 4 novembre pour le premier concert à l'église Saint-Jean.
Avec plaisir.
Et on finit sur du Haydn.